Je viens effectivement de la physique. Donc, et j'ai rencontré Hervé Aubras, sur ces sujets qui nous intéressent tous les deux de formalisation de la société. Parce que même si je suis au laboratoire de physique, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis passé par des laboratoires d'économie où j'étudie les systèmes sociaux. En fait. Et évidemment, cette question de la formalisation, pour élargir un petit peu le sujet, ce n'est pas du tout nouveau. Ça avait existé en SHS, j'imagine. Enfin, on cite souvent Passeron, comme sinon sur la difficulté de formaliser ou la place de la formalisation. Et c'est une bonne référence, mais c'est sûrement une question qui date de la naissance des statistiques, qui sont peut-être le premier exemple massif de formalisation, de quantification, modélisation. Il faudrait discuter le détail et les nuances entre ces trois termes, mais bon, pour le moment, je vais les confondre. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, il me semble, c'est que ces questions-là sont renouvelées complètement, en tout cas en apparence, par les big data. Alors, c'est ce qu'on entend dire, voilà, avec les milliards d'infos qu'on a sur chacune des personnes, on les trace, etc., etc. Ça va donner, ça va renouveler les sciences sociales. Et j'ai des collègues dans des labos de physique, c'est très minoritaire en physique. La plupart des physiciens continuent à faire de la physique comme vous la connaissez plus ou moins, mais il y en a un certain nombre d'informaticiens, de mathématiciens et de physiciens qui sont attirés par ces données, puisque c'est ce qu'on mange en général, des données. Donc le fait qu'il y en ait sur les systèmes sociaux donne des espoirs à certains de mes collègues on va refonder les sciences sociales, et vous connaissez peut-être donc les sciences sociales computationnelles. Un article est paru dans Science, par un collectif, on va dire, de physiciens, informaticiens et sociologues, d'ailleurs aussi à David Laser à Harvard. Donc un manifeste des sciences sociales computationnelles qui vont rendre enfin les sciences sociales un peu moins qualitatives, blabla, etc. Je cite les choses que j'entends chez mes collègues, un peu plus, enfin positives, voilà. Et donc c'est intéressant je pensais que c'était intéressant que Hervé Aubras soit là, puisqu'il a cette double compétence, on va dire, qui est rare, aussi bien sur l'objet SHS, puisque, comme on l'a rappelé, tu as fait des sciences sociales vraiment, et sur les outils formels. Et donc, on peut essayer d'espérer, en tout cas, trouver un équilibre entre l'utilisation du formalisme, qui est importante pour généraliser quand même. Il y a cette tension-là dans le formalisme à chaque fois. C'est-à-dire qu'on peut faire une étude de cas très, très, très belle, d'ailleurs, et très précise, etc. Mais quelle va être la généralité de cette étude-là? Et puis, on peut faire, on a les 23 millions de ménages français. Vous voyez le genre de truc qu'on peut faire avec ces données-là, qui sont d'emblée plus généraux d'une certaine manière, mais on voit bien que, jusqu'où on peut creuser profond ou pas. Et ce que j'aime bien chez Hervé, c'est que c'est pas du tout péjoratif, c'est un grand bricoleur de méthodes vous avez vu comment il bricole les méthodes, il regarde, et ça c'est une leçon, je pense, pour tous les étudiants qui sont là, et peut-être pas que pour les étudiants, il faut jamais appuyer sur les touches, vous savez, des logiciels R ou tous ces logiciels-là, où vous faites la régression linéaire, ça vous sort des chiffres, et donc, vous voyez que quand on bricole un peu les trucs, on applique ces méthodes-là sur la topographie du Cantal, ce qui n'est pas une utilisation très, très orthodoxe, mais c'est vraiment intéressant, parce qu'on voit ce qui est caché sous ces méthodes-là, et je trouve que je vous recommande aussi une autre lecture qui est, pour ceux qui n'ont pas vu, Time Matters d'André Abbott. Donc il y a un sociologue qui a aussi cette double compétence, et c'est très intéressant. Il montre comment, en fait, tous les outils quantitatifs qui sont utilisés par les sociologues présuppose implicitement, mais c'est caché justement dans ce que Hervé bricole justement, mais c'est caché dans le formalisme, une théorie sociale implicite qui est complètement contradictoire avec les grands cadres théoriques des sociologues qui font du Weber, qui font du ceci, du cela, et en fait ils utilisent des régressions qui, en gros, nient complètement tout ça. Et donc, ce que j'aime bien chez Abbott, c'est qu'il a cette double compétence qui lui permet d'utiliser quand même ces outils-là, mais en ayant la bonne distance, parce qu'il les a apprivoisés grâce à des bricolages sûrement comme toi. Donc c'est vraiment, n'utilisez jamais sans avoir bricolé avant les logiciels, les régressions linéaires, etc., etc. Donc, pour commenter un petit peu les exemples que Hervé nous a donnés, et puis essayer de lancer quelques pistes de discussion, J'aime bien l'exemple de l'âge et du l'effet de l'âge et du diplôme sur le taux de chômage. C'est intéressant parce que vous voyez que si on demandait donc sur le chômage de longue durée, quel est l'effet de l'âge sur le taux de chômage, on serait obligé de dire ça dépend en fait. Donc ça dépend du niveau de diplôme. Si les gens sont diplômés, l'âge augmente le taux de chômage de longue durée, mais si les gens sont peu diplômés, l'âge fait décroître au contraire le taux de chômage. Donc vous voyez que ça c'est très embêtant pour toute approche analytique, et moi venant de la physique, en physique on a l'habitude que les mêmes causes produisent les mêmes effets, et ça c'est très pratique, c'est-à-dire si je prends un objet, un téléphone par exemple comme ça, et que je le lâche, que le téléphone soit Sony, iPhone ou je sais pas quoi, la couleur, etc., l'effet de la gravité va toujours être le même.
Nouvelle expérience de Galilée.
Je pense qu'il me fait confiance, c'est pour ça qu'il a peur. Vous voyez, la gravité, effectivement, a toujours le même effet, quelle que soit la forme de l'objet, et c'est ça, en gros, qui rend la méthode analytique, donc je vais faire confiance à la physique aussi, donc je vais y aller doucement, c'est ça qui rend la méthode analytique très fructueuse, on va en partir en physique, à l'expérimentation aussi, mais disons, ça c'est un élément important, c'est-à-dire que vous pouvez prendre dans un environnement, dans un système complexe, vous divisez, vous étudiez, je vais prendre un autre exemple, mouchoir, là. Maintenant, regardez, bon, il est un peu sale, tant pis, donc ça, je peux le lâcher. Vous voyez que ça a une trajectoire bizarre, mais que vont faire les physiciens? Ils vont dire, ouais, ça, c'est compliqué, c'est trop compliqué, donc je vais d'abord étudier comment le téléphone tombe, parce que là, je sais que l'air, c'est pas très embêtant. Donc, je vais étudier l'effet de la gravité d'abord, et puis ensuite, je vais étudier l'effet de l'air sur la chute. Et après, je vais juste sommer les deux, enfin, sommer, disons, je vais combiner les deux, et vous savez, Newton, etc., on peut sommer les forces, et on peut combiner. Mais si maintenant, l'effet de la gravité change parce qu'il y a l'air, et c'est exactement ce qu'on a dans l'âge, c'est-à-dire l'âge, l'effet de l'âge va dépendre du diplôme. Et donc l'effet, vous voyez que cette idée de prendre un phénomène complexe, séparer les ingrédients, les étudier séparément et ensuite juste les combiner, ça c'est très efficace quand les effets ne dépendent pas du contexte, mais là, si les effets dépendent du contexte, vous êtes fichu parce que vous êtes obligé d'étudier à chaque fois comment, vous voyez. Et donc ça, c'est très embêtant pour cette approche Big Data, en fait, indépendamment du deuxième argument. Mais c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas suffisamment pris en compte par le Big Data. Donc le social, il y a un truc un peu plus compliqué quand même, en plus de l'expérimentation, évidemment, qui est aussi un problème. Mais rien que le fait que chaque cause dépend de son contexte, en tout cas, souvent. Deuxième exemple, c'était cette idée que j'aime bien aussi ce bricolage, on va dire, sur j'essaye de prédire le vote à partir des CSP et de la composition des CSP et de du vote moyen des CSP au niveau national. C'est ça que tu utilises en fait. Et donc j'aboutis à un vote qui est, on va dire, très très loin, en tout cas en variance, et puis bon, qui n'est pas très bon comme prédiction. D'une certaine manière, on pourrait dire, voilà, ces catégorisations sont trop frustes, et puis les employés du Nord-Est, c'est pas du tout les mêmes que les employés du Sud-Est, et puis, etc. Vous voyez qu'on rentre, on commence à rentrer dans des... Il faudrait faire des sous-catégorisations, mais là, ça serait intéressant, parce qu'à la limite, on pourrait dire, le Big Data, c'est bien pour ça, parce que maintenant, on va avoir du Big Data sur les employés du Sud-Est qui ont entre 18 et 23 ans, qui ont fait ta-ta-ta-ta-ta. Et c'est là que ton deuxième argument est intéressant, c'est-à-dire qu'on va extrapoler, en gros, combien faudrait-il avoir de caractéristiques pour arriver vraiment à saisir la trajectoire précise de cette personne et donc pouvoir prédire son chômage ou pas, etc. etc. Et on voit que c'est pas si simple. Donc là, j'ai quand même un petit... on ne va pas rentrer trop dans les détails techniques, mais je pense que c'est... Il y a deux leçons. Donc, sur la régression, donc méfiez-vous des... effectivement, des...
Interactions.
Des interactions et des choses comme ça. Et aussi, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est avec Abbott, etc., enfin disons, c'est cette familiarité des méthodes, des formalismes, c'est que quand la régression, en gros, ça marche quand votre espace sous-jacent est très homogène et qu'en gros, vous pouvez supposer que tous vos cas, c'est des cas de la même chose. En gros. Et que donc, vous allez juste combiner des petites causes et c'est tout. Mais Abbott le dit très bien, c'est quand la plupart des choses qui pourraient arriver dans l'espace défini par les variables n'arrivent pas, c'est-à-dire, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire, vous voyez, la variance, elle est pas du tout la même dans les deux cas, et disons, le formalisme n'est pas bien adapté, il y a des hétérogénéités que le formalisme n'incorpore pas, à ce moment-là, il faut chercher d'abord des formes, des structures locales, et les modéliser séparément, et ça, c'est des choses qu'on peut faire évidemment avec des récits, enfin, des enquêtes, etc. Mais il y a aussi des méthodes formelles qui permettent d'aller chercher. Donc les exemples que tu donnais, c'est-à-dire Hervé Poinet, vous vous rappelez, là où il avait juste le seul bâton, là, il essayait de modéliser avec la régression, ça faisait des trucs qui étaient très floutés. Il y a des techniques évidemment formelles qui permettent d'aller chercher des cas hétérogènes, mais il faut supposer du coup que ce qu'on essaye de modéliser est... Dès le départ, on va supposer que c'est hétérogène, sinon on ne pourra jamais le trouver. Mais du coup, les formalismes deviennent évidemment plus lourds, mais ça existe quand même, donc je vous encourage à regarder. Donc il y a des techniques très connues et très anciennes qui sont l'analyse en composante principale, que Hervé ne même pas trop, je crois, mais enfin, c'est pas très grave, on n'en discute pas.
Il y a une hypothèse linéaire aussi, par derrière.
Oui, mais quand même, ça permet d'aller chercher des hétérogénéités. Et puis, il y a une autre chose qui est exactement, en fait, qui permettrait de rendre compte de tes petits bâtonnets isolés, c'est une méthode un peu plus récente qui a été développée par un historien qui s'appelle Charles Ragin, je ne sais pas, enfin je crois qu'il est historien, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle le QCA, donc ça veut dire analyse qualitative comparative, un truc comme ça. Enfin bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais il y a quand même des méthodes formelles, vous voyez cette tension entre l'étude en profondeur d'un cas et puis une étude très générale, mais moins en profondeur, voilà. C'est pas aussi opposé que ça. Il y a quand même des méthodes formelles qui vont aller chercher des choses un peu plus hétérogènes, un peu plus spécifiques. Donc c'est un peu plus lourd, évidemment, mais à mon avis, disons, voilà, ça a du sens à l'âge des big data, où on a beaucoup, beaucoup de données, de développer d'autres méthodes que celles qui étaient développées pour les données statistiques, hein, puisqu'en fait, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire quand on vient des sciences formelles. Donc juste un petit mot avant de conclure, j'essaie d'aller vite, c'est... Sur ton exemple des big data, pourquoi ça ne me convainc pas complètement ton truc, donc l'extrapolation qui est intéressante, hein, disons, le fait que, c'est parce que j'ai été surpris aussi en lisant ton bouquin, du fait que quand on connaît le diplôme, le niveau de diplôme, qui est quand même une variable, pratiquement la variable la plus déterminante en fait du taux de chômage, et qu'on voit qu'on passe de 5 à 15%, donc c'est quand même un facteur 3, c'est énorme en même temps, et que ça apporte 3%, je crois, un truc comme ça, ça réduit 3% la variabilité, on se dit... Il y a quand même un truc, enfin bon, on est d'abord surpris, puis après on se dit, quand même c'est un peu trop peu. Et donc on a essayé de creuser cette question l'année dernière avec un étudiant, et peut-être que ce qu'il faudrait discuter c'est d'où est-ce qu'on regarde les choses en fait. Oui. Et d'une certaine manière, quand tu fais ton calcul, et c'est la position de l'INSEE ou d'une entité centralisée, on va dire, qui essaye sur toute la population de faire des prédictions. Et à ce moment-là, effectivement, bon, on aboutit à ton calcul parce qu'on essaye de prédire exactement qui va être au chômage ou pas en fonction des caractéristiques homogènes pour toute la population. Si on s'intéresse aux individus, en revanche, évidemment, est-ce qu'un individu a intérêt à avoir un diplôme ou pas pour réduire son taux de chômage? Là, on retombe quand même sur le facteur 3. Donc pour l'individu, voilà, d'avoir un diplôme ou pas, ça change quand même énormément la réalité. Et puis, on essayait de se mettre à la place de Google. Parce qu'on s'est dit, voilà, l'entité centralisatrice aujourd'hui, c'est plus tellement l'État, enfin, c'est pas seulement l'État, en tout cas, de plus en plus, c'est une sorte de supra-État que sont Google, et qu'on étudie à l'Institut des systèmes complexes aussi. Et donc, à ce moment-là, si on se met à la place de Google, c'est quoi plutôt? C'est-à-dire, on va pas essayer de prédire si quelqu'un est au chômage ou pas, ça, c'est un peu spéculatif, hein, mais c'est pour lancer la discussion, ça serait plutôt... Essayons d'identifier si la personne qui est en train, évidemment, de consulter les pages web est au chômage ou pas, pour savoir si on va lui vendre une pub pour les vacances ou une offre d'emploi, mettons. Vous voyez, c'est plutôt ça ce que vise Google. Est-ce que je vais arriver à placer ma bonne pub qui sera plutôt adaptée à la personne qui est en train de regarder? Et à ce moment-là, si vous refaites le calcul maintenant en disant... Je gagne X par pub cliquée, ok? Et donc d'accord, Hervé quantifiait l'erreur en disant quelle est la probabilité de me tromper ou pas avec son modèle binomial. Moi ici, je quantifie une erreur un peu différente, qui est, grâce à cette information nouvelle qui est le diplôme de l'internaute qui est en train de consulter une page, je peux modifier la probabilité de mettre une pub de vacances ou une pub d'offre, enfin, une offre d'emploi, d'accord? Et si je quantifie l'erreur, entre guillemets, de cette manière-là, ben le fait de savoir que quelqu'un a un diplôme, ça diminue mon incertitude, pas de 3%, mais de presque 30%. Parce que j'utilise une autre fonction, on pourra rentrer dans le détail des maths derrière, mais j'utilise une autre fonction, et dans cette fonction-là, vous voyez, ce que j'essaye d'avoir, c'est un contraste entre vendre telle pub ou telle pub. Et je vais, enfin, c'est pas la même chose que prédire le chômage ou pas. Donc c'est un petit, enfin, il faut rentrer dans le détail des formules pour vous convaincre du truc, mais disons... Ce que je veux dire, c'est Big data ou pas, disons, qu'est-ce qu'on gagne avec les big data? Ben, ça dépend de à qui on s'intéresse et qui est derrière la prédiction. D'accord? Et donc, bon, c'est pas si évident que ça que les big data, ils servent quand même à quelque chose, et Google en fait quelque chose et on peut leur faire confiance. Donc c'est pas Big Brother peut-être, c'est pas l'État Big Brother, mais c'est... Et surtout, il faut savoir que Google, quand vous avez des milliards et des milliards de clics possibles, si vous gagnez 1 ou 2% de précision dans la pub que vous mettez, ça vous fait des milliards quand même derrière, quoi. Donc c'est des modèles assez différents, et je crois que cette histoire de Big Data, bon, ça va au-delà. Disons, il faut presque changer d'attitude, de cerveau, pour voir les implications de Big Data. Et ça ne se pose pas dans les mêmes termes, en fait, que ce qu'on avait pour un État centralisé. Donc, pour conclure, je vais dire que, disons, on a eu au 19e une avalanche de données déjà, en fait, hein, au début du 19e, avec la centralisation des États, et on a eu cette première avalanche de données qui a mené à quoi, entre autres, enfin, au niveau scientifique, au développement de méthodes statistiques qui étaient au service, justement, de l'État centralisateur, qui était celui qui était chargé, en principe, en tout cas, du bien commun via, en gros, le management des populations. Aujourd'hui, évidemment, l'explosion des big data, qui est un peu parallèle en fait à cette avalanche-là, elle n'est plus générée par les États, elle est générée par Google, Facebook et tout, enfin, les opérateurs téléphoniques, etc., dont le rôle pour le bien commun est un peu plus, est encore plus peut-être, ou pas, je ne sais pas, en tout cas, est différent de celui de l'État, c'est clair. Et donc, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on va développer comme outil formel? Est-ce qu'il faut développer des outils formels comme les stats, mais disons, qu'ils soient applicables à la spécificité de ces données, qui sont différentes, puisqu'avant, on avait sur des millions de personnes, on va dire, mais avec peu de données, comme tu disais ici, sur chaque personne, on avait quelques dizaines de caractéristiques. Maintenant, on aura sur des millions de personnes, mais des millions de caractéristiques aussi, donc ce n'est pas les mêmes outils formels, mais peut-être plus profondément, ce n'était pas des outils formels de description et de statistiques comme ça, et de prévision centralisée, mais on voit qu'il y a beaucoup, disons, d'outils formels qui permettent plutôt une coordination, en fait, des personnes. Pas, enfin, il y a les deux, évidemment. Google développe des outils qui lui permettent, lui, de mieux prédire des choses, etc., de mieux suivre, de mieux suggérer des choses. Mais il y a aussi, et peut-être plus encore, plus intéressant, de la place pour développer des outils formels, mais qui permettent plus une coordination entre les personnes, du style Wikipédia ou des choses, des réseaux sociaux, qui permettent aux acteurs eux-mêmes de se coordonner de manière un peu plus organisée, mais sans passer par un centre. Vous voyez, ce que les statistiques supposent implicitement à chaque fois, quand vous avez des stats, c'est une vue depuis le centre. D'accord. Est-ce qu'on peut faire des modèles formels ou de la formalisation, des choses qui permettent de générer, d'étudier et d'apprivoiser les big data dans d'autres buts? Voilà, ça serait une des questions que je lance aussi pour la discussion. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci à tous les deux. On va laisser la parole à la salle maintenant. Si quelqu'un a des questions, il est le bienvenu.
Monsieur,
le droit
veut répondre aux attaques.
Non, sur beaucoup de points, je suis tout à fait d'accord, mais on reviendra peut-être sur juste un mot. C'est Pablo a tout à fait raison. C'est deux optiques tout à fait différentes. L'optique, effectivement, je dirais à la limite, j'ai peut-être pas une optique centralisée, mais c'est une optique de recherche. C'est-à-dire, on dit, ben voilà, on prend une personne au hasard. Quelle prédiction on peut faire? Google a une optique assez différente, c'est combien d'argent je peux gagner. Donc, et c'est vraiment assez différent. Donc je ne conteste pas que Google puisse tirer avantage des big data, parce qu'il n'emploie pas, grosso modo, sans entrer dans le détail, ça revient à dire, est-ce que les formules que j'emploie sont pondérées ou non par les coûts? Et si elles sont pondérées par les coûts, à ce moment-là, on passe dans le cas Google, tandis que là, dans celui de l'observateur, tous les individus se valent. Donc, à ce moment-là, il y a la pondération est la même pour tous les individus. Je crois que c'est juste ce point qui est nous...
C'est pas contradictoire, en fait. Voilà. C'est juste... C'est, on peut avoir des points de vue différents, en fait. Et du coup, c'est juste pour mettre en perspective le 3%. Le 3%, ouais. Il est relatif à ce point de vue-là, en fait.
Absolument. Tout à fait.